À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
De la belle visite à A deux, c'est mieux aujourd'hui. Michel Forget, bonjour.
Je vous écoutais en m'en venant, je dis, il doit avoir l'ordre. Puis vous avez parlé, j'ai eu une bonne pouliche qui venait de Sorel.
Ben oui.
Pour ceux qui se souviennent, peut-être vous avez connu un monsieur Roger Dumas.
Ben oui.
Hein? C'était-tu Sainte-Victoire? Pas loin?
Non, il restait...
En tout cas, pas loin.
Pas loin d'ici.
Et il bridait des chevaux, il élevait des chevaux. Et j'étais au parc Richelieu à Lancan. Et je m'en allais courser à Trois-Rivières. J'ai dit, on va arrêter à Lancan des fois pour acheter quelque chose. Et la jument était pas, la pouliche était passée, elle s'était pas vendue. Je l'ai fait courir un petit peu, trotter, puis je sais pas, j'ai eu un bon feeling. Et puis, je l'ai acheté. Et à 2 ans, elle a gagné 13 fois en 18 départs.
Quand même!
Elle a jamais fini plus loin que deuxième. Alors, c'est une bonne pouliche de Sorel, je n'ai que des bons souvenirs.
Donc, les gens qui ont refusé ce cheval-là à l'enquête doivent s'en vouloir.
Ben, écoute, pour ceux qui ont... Moi, je vais avoir 80, là. Moi, je me souviens de ces JSO. Avec ma grand-mère, j'habitais Lanoraie. Et on écoutait ces JSO, le poste rentrait bien, puis je me souviens d'un monsieur Péloquin. Ça vous dit quelque chose?
Est-ce que c'est Gilles
animateur?
Péloquin?
Il y aurait au moins mon... Ben, écoute, j'avais 8-10 ans, il devait avoir au moins 20 ans, il serait décédé.
Ça doit pas être...
Ça se peut-tu, Joseph Péloquin, un annonceur à Sorel? Parce qu'on... Oui, bon, OK. Ça, c'est des souvenirs, parce que de Lanoraie, on prenait très bien ces JSO, mais c'était sur AM dans ce temps-là.
Oui, oui. Ben oui. Biographie,
oui.
Qui est paru il y a quelque temps déjà. Comment c'est arrivé le projet d'écrire sa vie?
Ça, c'est l'influence. Moi, ça me tentait pas. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, j'avais des complexes. Je disais, oh, Beethoven, Mozart, Einstein, tu sais, des... Bon. Et puis, des amis autour disaient, ben non, ça peut. Bon. Alors, ma femme s'est mise de la partie. Et on a fait ça ensemble. Puis je dois dire que ça a été un peu le... C'est elle qui pilotait l'engin, là, parce que moi, j'ai suivi.
Ça a été sous forme d'enregistrement que oui. Ça a été écrit, ce
oui.
Livre-là.
Donc, comme on
vous
êtes
juste raconté, en oui. Fait, à votre femme, et tout était enregistré.
C'est ça.
Puis après ça, on a fait le ménage là-dedans.
On a fait le ménage là-dedans. Ça a été corrigé par quelqu'un chez Québécois. Et voilà, le bébé est sorti.
C'est comment cet exercice-là? Parce que c'est vraiment un bilan de vie qu'on fait. On retourne en arrière, on retourne dans des choses pas faciles, dans des beaux moments aussi. Oui. C'est comment regarder ça avec un recul?
Avec le recul, on s'aperçoit qu'on a eu des bons breaks, des chances, des gens qui sont intervenus, je dirais, positivement. Il y a eu des mauvaises influences jeunes. Mais après ça, ça s'est calmé et j'ai eu de l'aide. Et c'est tellement important. Puis... Moi, je suis le genre, quand quelqu'un m'aide, là, c'est dans ma tête pour la vie. Quelqu'un qui m'aide, je vais le défendre, bec et ongles. Alors, je peux pas oublier ça. Alors, ça m'a fait revivre les gens qui m'ont aidé, que ce soit Jean-Louis Roux. Toute l'époque du TNM, les vieux du TNM qui auraient 100 ans aujourd'hui, là. Et ça s'est perpétué. Dans le métier, c'est pareil. Quoi qu'on fasse, que tu sois capitaine d'avion ou acteur, il y a toujours quelqu'un qui peut te rendre service. Et j'ai bénéficié de ça, puis j'ai essayé de bien l'employer. C'est parti dur, c'est parti rough en boitant, mais ça s'est replacé, puis bon, ben ça a fait que je suis rendu là aujourd'hui.
Vous parlez de votre enfance difficile dans le livre, évidemment, avec un père pas très présent, qui buvait beaucoup, qui s'est séparé souvent de votre mère, qui revenait souvent aussi, dont la vie s'est finie de façon tragique aussi. C'était comment retourner là-dedans pour vous, après toutes ces années-là?
Bien, c'est... moi, je suis un peu comme un canard quand il pleut. Nous autres, on ouvre le parapluie, puis on se cache en dessous des arbres, on se met à l'abri. Le canard, lui, il est dans le milieu du lac, puis qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, il reste là. Je sais pas si c'est fait comme ça chez moi, mais c'est arrivé, bon, ça devait arriver.
OK.
Et puis on peut pas, je le garde en avant. En arrière, c'est fini. Tu peux pas traîner ça tout le temps de ta vie. Tu sais, je fais rire les gens en racontant ça. J'avais toutes les raisons du monde d'être enragé, fâché. Il m'est arrivé un incident quand j'ai laissé le sein de ma mère pour la bouteille. Ça a l'air que je criais, puis je braillais. Ma mère a fait venir le médecin, le pédiatre, en fait, le père, le docteur Guilbeault, le père de Luce Guilbeault, l'actrice. Et il a dit, Marie-Marthe, c'est parce que les sus, il faudrait que tu les perces. Tu sais? Ça, là, je passe devant un juge accusé de meurtre. Monsieur le juge, mes sus n'étaient pas percés. Ah, libéré sur le champ. Tu sais? Bon, ben moi, je me dis, si j'étais capable de passer à travers ça, tu sais? Bon, le sein, ça coule tout le temps. Mais les sus pas percés, tu peux pas faire de miracle.
Vous étiez parti pour être un délinquant.
Ouais,
l'école,
ouais.
Ça allait pas bien. Ouais. Vous avez même fait des mauvais coups. Ouais. Vous avez même été avec des gens qui volaient, des jeunes qui volaient, ben, plus oui. Vieux que vous qui volaient.
C'est ça.
Puis vous les avez aidés, en fait.
Ben, on vole. Nous autres, ils nous demandaient, ils faisaient faire les petits jobines, les capes de roue. Fait que, on partait avec un petit crowbar à deux, une poche de jute, puis. Moi, je me souviens, le courir dans la ruelle, le gars m'a quasiment pogné la chemise. Mais on courait vite. Puis ça a fait que ma mère a paniqué parce que on se rapporte. Là, j'avais à peu près 14 ans. Ça nous met en 1956. Quand tu te promenais avec 150 piastres dans tes poches, puis ta mère en gagnait 35 par semaine.
Mais c'était pas normal, mettons.
C'était pas normal. Puis là, elle a paniqué un peu, puis elle s'adressait à la cour juvénile. Et puis j'ai eu de. Quand je suis allé à Boscoville, ça rentre pas tout de suite. Tu sais, t'as beau être bien entouré. Tu sais, ça travaille là-dedans. Et je me suis sauvé de Boscoville. Là, je passais devant le juge. Il m'a envoyé un mois à Bordeaux. J'ai connu la prison de Bordeaux. Et ce qui m'avait le plus frappé, là, puis ça a agi sur mon conscient par la suite, c'est que l'autobus qui amène les prisonniers à Bordeaux, beau fourgon noir, arrêtait à cour juvénile. Et s'il y avait des délinquants qui s'en allaient à Bordeaux, ils ramassaient. Et là, j'étais dans l'autobus noir, puis il avait mis comme un madrier de travers parce que c'était plein. Fait qu'on était assis dans le milieu, puis il y avait des prisonniers de chaque bord. Puis là, j'entendais les gars dire « Hey, j'ai été chanceux, j'ai pogné juste 7 ans. » Moi, j'étais chanceux, j'ai pogné 11 ans. Putain, là, j'ai passé un mois à Bordeaux. J'ai trouvé ça long. Puis tout ce qu'on avait comme lecture, c'était des Reader's Digest. Puis la photo la plus érotique, là, c'était une femme en deux pièces, l'annonce de Noxzema. Ça, là, je la connais par cœur. Puis je pense, de mémoire, la bouche d'aération qu'il y avait, là, je pense, c'était 4 de même par 6 de même. 1, 2, 3. Ah non, je me suis pas trompé. Il y en a 24. C'est ça. Je recommence 24, 23, 22, 0, 1. Ah, fini. Fait que là, tout ça, ça fait que quand tu. Je suis revenu à Boscoville. Ça fait que, hey, non, on ne ferait pas ça tout le temps de ma vie, là. Non. Je ne pognerai pas 7 ans, puis je ne pognerai pas 8 ans. Et là, le travail des psycho-éducateurs s'est fait. Et pour que, à peu près 27 mois plus tard, à la fin, j'ai été à Boscoville 2 ans et quelques mois, le directeur, M. Gendreau, un homme extraordinaire que je ne sais jamais de vanter, qui a pris un peu une allure de ce qu'on appelle un father figure, une figure de père. Moi, j'ai pas eu de père. Hein. J'ai trouvé ça. En vieillissant, j'ai trouvé ça dur parce que j'ai des amis qui ont eu des pères qui leur ont montré comment travailler le bois, qui leur ont montré, tu sais, se débrouiller. Mm-hmm. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, puis elle ne travaillait pas le bois. Fait que, puis elle faisait des bonnes tartes, mais ça, je ne suis pas donné. Et ça a fait que. Ils ont raison. Ouais, oui. Puis là, j'appelle ça pas filet doux, mais tu suis ce qu'ils disent. Et ça a bien été. Puis Gilles m'a dit un jour, Michel, t'es prêt. Vas-y. Et j'ai serré la main, puis j'ai dit, puis je m'en souviens encore, je le vois, j'ai dit, Gilles, je te ferai jamais honte. Et j'arrive jamais à parler de ça sans que... En dedans, ça brasse. C'est toujours... Des fois, je suis en public comme ça, là, je raconte un peu, puis les larmes viennent aux yeux, puis c'est pas contrôlable. Tu sais, je peux pas demander au docteur, avez-vous une pilule? Je m'en vais, parler à un groupe de personnes, puis je voudrais pas avoir les larmes aux yeux, avez-vous une pilule? Mais c'est des émotions qui reviennent. Puis tu sais, quand t'arrives, je sais pas si c'est comme... On dirait que quand on arrive à 75, 80, moi, j'écoute des airs d'opéra des fois, puis j'ai les yeux pleins d'eau. On dirait qu'il y a des choses qui nous touchent plus. On va regarder un film ou une série, puis un moment dramatique, on dirait que ça... On dirait qu'en vieillissant, la sensibilité, là, est juste sur le bord, là, que ça nous lâche pas. Puis je suis heureux d'avoir vécu l'époque que j'ai vécue. Je regarde les jeunes aujourd'hui, c'est tough. Il y a de la compétition dans tout. Puis, j'entends, là, on parlait de Carey Price. Là. les réseaux sociaux, puis tout ça. Ouf. Facebook, là. Je suis pas là-dessus.
C'est bien correct.
Puis, des fois, dans un mouvement de colère, tu sais, aller dire quelque chose, là, ça part. Là, c'est... Non, non. Ben, laissez ça aux autres.
C'est à Boscoville que le théâtre est arrivé pour la première fois avec les Fourberies du Capin. Vous avez joué ce Capin, d'ailleurs, dans cette pièce-là.
J'ai toujours été un peu le bouffon de la classe. Fait que le père Mars, qui était l'aumônier, qui était, mon Dieu, un émule du père Legault, qui avait fondé les Compagnons de Saint-Laurent. Tout le TNM, ça venait des Compagnons de Saint-Laurent. Et il m'a fait jouer ce Capin. Et il y avait toujours un invité. Je me souviens que Michel Tisserre était venu. Moi, c'était Jean-Louis Roux. Puis il m'a dit tout bonnement, si vous voulez faire ce métier-là un jour, appelez-moi. Je trouvais ça bien gentil. Puis quand je suis sorti, j'ai commencé à travailler. Ma première job, là, en sortant de Boscoville, je mettais du linge dans des boîtes de carton d'une manufacture. Je gagnais une pièce et 24 $. Ouais, ça fait longtemps. C'était en 58-59. Et là, ma grand-mère puis ma mère m'ont dit, « Monsieur Leroux t'avait dit... » Puis dans ce temps-là, c'était bien impressionnant. C'était le père Ovid... C'était Ovid Plouf que jouait Jean-Louis Leroux dans la famille Plouf. Puis c'est un... Il parlait bien comparativement aux autres. Et puis, ma grand-mère a dit, « Monsieur Roux, là, je prends mon courage à deux mains, j'appelle au TNM. » La dame, elle prend mon numéro de téléphone, puis j'arrive de travailler, on s'installe pour souper, le téléphone sonne. Puis là, je vois ma grand-mère décrocher, le téléphone est sur le mur. « Oui, c'est Jean-Louis Roux. » Hey, là, faut que j'y parle. « Bonjour, M. Roux. Bon. Viens donc à la salle de répétition du TNM. Le samedi, travailles-tu? Non. Viens, samedi matin. C'était dans le bas de la ville de Montréal, la rue Sanguinette, juste en bas de Sainte-Catherine. Il y avait un atelier où on répétait des pièces. Et là, j'ai rencontré, quand je suis arrivé là, c'était pas gros dans des bottines. Là. Il y avait Denise Pelletier, Denise Saint-Pierre, il y avait Jeannine Souteau, Guy Hoffman, tout
Jean Gascon.
Jean Gascon et compagnie. Et là, j'ai regardé la répétition. Puis là, tout le monde m'a fait parler, compter mon histoire encore. Et puis, Jean-Louis Roux m'a engagé dans une production qui faisait qu'avec des jeunes acteurs. Par la suite, il m'a dit que l'École nationale de théâtre, Jean Gascon, allait ouvrir ça et que je devrais y aller. Jean Gascon, je pense qu'il a posé un acte de charité, là. J'ai essayé de passer une audition.
Avec un texte mal choisi, c'est ce que j'ai compris.
Une pièce de Cocteau là, que personne ne veut lire. Pour. Et puis, je pense que j'ai eu le temps de dire deux répliques. Là, il y avait une petite cloche. Viens me voir. Fait que là, je suis là, je dis, ça va être la faillite totale. Et là, il était gentil, il m'a fait jaser un peu. Puis il dit, dors tranquille, on va te prendre, tu vas recevoir une lettre. Alors là, quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit ça à ma grand-mère, elle a dit « Ma neuvaine a marché. » Chez nous, là, les neuvaines, ma mère en a fait une quand j'ai passé l'audition pour jouer Bonheur d'occasion. Quand j'ai dit « J'ai eu le rôle », elle a dit « Tu vois, ça marche. Saint-Jude, patron des causes désespérées. » C'est le même Saint-Jude que de Jean-Louis Roux. Ben, Saint-Jude, là, pour moi, il est bien correct.
Dans la carrière théâtrale, j'ai senti dans le livre qu'il y a un bout qui... Pas un regret, mais l'expérience avec Jean Duceppe.
Oui, ça, c'est quelque chose
qui m'a marqué. Ça vous a fait un pincement.
Ça m'a fait bien mal parce que j'avais une admiration énorme pour Jean Duceppe. Et c'est mauvais casting, inexpérience de jeunesse. Et puis je l'ai traîné tout le temps de ma vie. Ça, c'est quelque chose où je me suis fourvoyé royalement. Je vais en prendre, mettons, 75% du blanc, puis je vais laisser le 25% aux autres, là. Mais ça arrive. C'est une erreur, ça. C'est comme acheter une voiture puis se remarier avec un citron. Fait que moi, je me suis rendu responsable d'avoir passé un citron à M. Duceppe, puis j'ai jamais pu l'oublier.
La carrière de théâtre commence à ce moment-là, mais moi, tout s'arrête. Vous vous mariez avec une Britannique.
Ah, ben non, c'est avant.
C'est avant, ça, c'est vrai. C'est avant.
Moi, là, je... Écoutez bien.
Il y a eu comme plusieurs vies.
Ah oui. Je me fais mettre dehors de l'École nationale. Je vais au conservatoire. Je rencontre Louise Turcot. On est restés amis. On a travaillé ensemble. Femme formidable. Et là, je rencontre une Anglaise. des grandes jambes. Jean-Rodré Hepburn un peu. Puis elle s'en va en Angleterre, elle a trouvé, son père avait une coupe d'hôtel, puis viens t'occuper de ton héritage. Et là, je mène en amour, je pars de la suivre. Le Canada est mort en novembre, je pense que je suis parti pour l'Angleterre en janvier, tout de suite après. Et là, on s'est mariés, on a eu deux enfants. Séparation, bon, je reviens au Québec, je recommence à zéro.
En fait, il y a eu l'Afrique dans tout ça, en plus.
J'ai fait un bout en Afrique. J'ai failli rester en Afrique. J'ai rencontré un père italien. Je me souviens plus, c'est les pères du Saint-Esprit, mais c'était un Italien qui parlait anglais, français et italien, évidemment, qui m'avait offert de venir dans sa mission enseigner le français. J'ai failli dire oui. Je sais pas ce qui serait arrivé, là. Mais je suis revenu, finalement.
Surtout quand vous êtes revenu, vous avez appris que votre femme est enceinte.
Bien.
Charles, vous êtes revenu.
Je reviens, je suis en culotte courte. J'arrive d'Afrique au mois de février. Ma soeur vient me chercher à l'aéroport. Elle dit, en passant, ta femme a eu un deuxième enfant. Fait que c'était fait avant que je parte. Bon. Et là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en vais dans le nord, chez ma grand-mère. J'ai pas de place, j'ai 3 piastres dans ma poche. Et j'ai commencé à travailler dans une épicerie Saint-Sauveur, à livrer des commandes, puis à placer des cannes sur les tablettes. Jusqu'à temps que j'aboutisse au Sun Valley, un hôtel, où il y avait un théâtre d'été et une rencontre bénéfique. Vous vous souvenez-vous de Monique Lepage? Bon. Mme Lepage me dit, « Mais Michel, t'es pas pour faire ça tout le temps de ta vie. T'avais du talent, il est encore là, ce talent-là. Fais quelque chose. Mais tu sais, t'es à Saint-Sauveur. Puis... » Et un téléphone. Les circonstances. Tu sais, la vie, c'est un peu comme un pinball machine. Tu sais, machine à la boule, elle sonne, puis elle cogne, puis ça allume, puis ça éteint, puis ça allume. Bon. Et puis, j'ai eu un téléphone d'André Melançon, qu'on vient de perdre,
ouais,
qui préparait son premier film. Il demande à me rencontrer. Je le rencontre à l'ONF. Pose des questions. Et évidemment, je le disais que je venais de Boscoville pour pas qu'il l'apprenne après, puis il dise, tu aurais pu le dire. C'est bon. Et il me dit qu'il a été psycho-éducateur à Boscoville, mais longtemps après moi. Il m'a engagé, puis ça a parti, comme ça. Tranquillement, des petits rôles au théâtre, jusqu'à la petite patrie, Roland, avec Louise Lapari, qui est la femme de Gaston Lepage. Et après ça, la petite semaine, où j'étais le chum de Dominique Michel, dans l'histoire, un grec. Et on se connaissait, nous, des amis de vieille date. Puis Dominique m'a jamais lâché. D'ailleurs, elle m'a poussé dans le dos.
Ouais.
La préface et le livre. Écris-le, je te le dis. Fait que c'est une amie de longue date. Des fois, elle dit, je suis comme son petit frère ou quelque chose. Et ça a fait que, ben, ça a reparti. Puis Dominique m'a même, quand j'ai dit, voyons, tu peux pas coucher dans ton auto, là. Elle m'a envoyé chez sa mère à Brossard. J'ai été là peut-être 15 jours, 3 semaines, là, jusqu'à temps que je commence à travailler. Mon premier contrat avec Melançon, écoutez, vous n'avez pas de maudite scène. Puis je pense que j'avais 12 jours de tournage à 600-700$ par jour. Là, je pensais que je m'allais gagner à l'auto. Hein. Là, Dominique Dodo a dit, les nerfs, quand tu vas recevoir ton chèque, ouvre 2 comptes. Un pour l'impôt, un pour toi. Si tu reçois 5 000, 3 500 dans un, 3 500 dans l'autre. Tu vois que l'année, c'est plus facile à finir quand tu n'es pas en arrière avec l'impôt. J'ai fait ça longtemps. Moi, ils m'ont fait assez de peine à la Caisse populaire quand ils m'ont dit, monsieur Forgette, le petit livre, là, avec vos dépôts, c'est fini. Là, ça, c'est... Oui, mais non, là, on ne peut plus. J'en ai même plus à machine pour la mettre dedans, pour votre carnet, pour le mettre à date. Ça m'a fait jamais ça. Je regardais. Bon, j'ai de l'argent de côté.
C'est votre femme qui vous a convaincu de faire le livre avec Dominique Michel.
Ouais.
Vous êtes un grand-père dans la vie. Ils sont loin, vos petits-enfants. Est-ce qu'on le fait un peu en pensant à eux, en disant il y aura la vie de grand-papa qui existe?
Ce qui m'a fait plaisir, c'est que mes deux fils en Angleterre, vous savez, quand vous appelez votre fils pour lui souhaiter bonne fête, puis il a 55 ans, ça ne rajeunit pas, mettons. Et évidemment, j'ai eu 2 copies, je leur ai envoyé et ils ont appris le français. Le plus jeune ne parle mieux, mais ils sont capables de lire, comprennent très bien. Et là, j'ai eu un beau témoignage. Ça fait plaisir parce que ça a été long avant qu'on se retrouve. Ils sont venus. Moi, je les ai perdus de vue. Ils étaient bébés. On s'est revus. Ils avaient 18 ans. Puis là, on se parle régulièrement. Ils sont rendus à 55, 52 ans, 51 ans. Alors, ça fait que... Et j'ai eu deux beaux témoignages là, qui m'ont comme fait chaud au cœur. Parce que même si c'est pas moi qui les ai élevés, mon Dieu, ils sont positifs à mon égard. Puis, et leur mère est encore en vie, d'ailleurs.
Est-ce que c'est dur d'avoir des petits-enfants et des enfants loin?
Oui, on aimerait... parce que les petits, on les a vus quand on est allé en Angleterre. Et là, ils sont... Il y en a un qui est en école de musique de Londres, en chef d'orchestre, en composition, puis en contrepoint, qu'il appelle. Puis l'autre fait son droit, donc ils sont 24 ans, 23 ans. Et puis... mais du côté de ma femme, ses deux enfants ont des bébés, mais ils ont fait ça tard. Nous autres, on faisait des petits à 24 ans. Eux autres, ils les font à 39. Fait que quand ils vont en ski avec leurs enfants, ils ont l'air des grands-pères. Ils s'en vont en ski avec leurs petits-fils. Tu sais? Les deux ont 5 ans, là. Je vais avoir 80. J'espère vivre au moins encore quelques années pour les voir un petit peu levés. Et puis... mais ça, c'est la vie, c'est le destin. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas être parfait tout le long. On s'en varge, on se relève, puis on essaye d'être meilleur la fois d'après.
Le 6 octobre 76, il y a donc 45 ans, il y a deux jours à peine, c'était le début de du tac au tac, ben, oui, avec le rôle de Mario Duquette. À quel point il a été important, ce rôle-là, dans votre carrière? Ça a été le tremplin, j'imagine.
Oui, ça, c'est... tu sais, ça te sort, mettons... Tu es un acteur, là, tu commences à avoir des... Bon, les gens reconnaissent que tu as un certain talent, mais ça, ça te met sur la map, là. Ça, c'est comme une saison de 50 buts, là. C'est parti. Et ça a duré, je pense, 6-7 ans. Et puis, ça m'a apporté toutes sortes de choses. Et ça a fait que, quand j'ai commencé à produire au théâtre d'été, ben j'avais déjà un public...
Qui suivait, ben oui, évidemment.
Qui était de bonne humeur, ben, oui, à mon égard. Oui. Puis moi, j'ai aimé, ça m'a fait tellement bien de faire rire les gens. Je pense que c'est une forme de thérapie. Entendre une salle de 600-700... On venait jouer ici à Sorel, au Théâtre...
Au Théâtre Saint-Dumoine?
Oui. Voyons, là, j'ai un blanc de mémoire.
Monsieur Bergeron?
Monsieur Bergeron. Son fils, je pense, a continué.
Son fils a continué, là, ça n'existe plus.
Ouais. Ah, ça n'existe plus?
Non, non,
ah,
ça n'existe, bon, plus.
Et on venait en tournée ici. C'était plein. Les tournées étaient... Moi, entendre une salle rire, puis applaudir à la fin, là, c'était comme un témoignage d'amour. Faire rire les gens, puis souvent, quand j'avais des groupes qui venaient en autobus, là, j'allais dans l'autobus après. Je me dépêchais, là, après le salut, là. Je savais qu'on avait deux, trois autobus. Je me dépêchais d'y aller, les saluer, passer une bonne soirée. Puis c'est des gens qui viennent à Sainte-Agathe, puis qui sont partis de Victoriaville. C'est invoyable. Tu sais, eux autres, ils finissent au théâtre, puis sont partis depuis le matin. Ils ont arrêté manger en quelque part. Ils ont été visiter quelque chose dans l'après-midi. Ils ont soupé en quelque part. Puis là, ils vont au théâtre. Puis là, ils reprennent l'autobus, puis ils retournent. Moi, j'avais un respect là, pour ça. Ted Fairmind. Quand je suis allé à Ted Fairmind, je n'étais jamais allé de ma vie. Je m'en vais jouer au golf à Ted Fairmind. Là, j'ai dit, Colin, on avait des autobus de Ted Fairmind. C'était un bout, là. Ted Fairmind, c'était un paquet de petites routes avant, ben oui, d'arriver à la 20, puis monte à Sainte-Agathe. Alors, j'ai apprécié ça, puis ça m'a fait... on dirait que ça a renforcé l'estime de soi. Tu te sens utile. Ah, ils ont ri toute la soirée, ça fait du bien. Bon, ben c'est ça. Ça, bien humblement, c'était contribuer à la bonne humeur des Québécois qui venaient au théâtre.
Mario Duquette, c'était une fausse moustache au début?
Ben oui. Ça, là, c'est... D'abord, j'ai plus le droit de la couper, c'est de sa faute. Elle est là. Je dis des fois, je t'avais de mettre la... Non! Mais ça a commencé bêtement. On commence à tourner du tac au tac. On va reprendre la scène. La moustache de Michel a décollé. Bon, on met de la colle, colle ça.
Oui, parce que ça faisait chaud, je me
dis. Chaud, puis ça, tu sais. Là, quand les vacances des fêtes sont arrivées, on avait comme 6 semaines. Je dis, on ne recommencera pas les scènes. Elle était bonne. On l'a refait parce que je l'ai laissé pousser. Je l'ai coupé une couple de fois pour des personnages, mais depuis quelque temps, il ne m'en parle plus. Et la directrice chez nous, qui est juste assise dans le fond de la salle, le moins interdit de même mentionner que je la coupais. Fait que... Qu'est-ce que vous voulez? Ce que femme veut.
Et voilà. Il y a eu plein de rôles marquants dans votre carrière. Évidemment, ouais. Gilles Guilbeault dans l'ancien conte.
Oui, c'est un beau cadeau.
Et il y a un moment qui est important, c'est le Colisée, qui vous fait une ovation debout quand vous annoncez que le National reste à Québec. C'est comment vivre ça?
Ah, c'est... Écoutez, on s'en parle. Vous avez peut-être trouvé qu'on a la sensibilité à fleur de peau. Mais c'est Richard Martin qui réalisait cette année-là. Et on a cette scène-là à tourner où Guilbeault annonce que le club de Québec reste à Québec. Et là, j'ai dit à Richard, on n'a pas besoin de répéter ça. Ils sont pas fous. Ils vont comprendre. Bon, OK, on va l'essayer. Puis il y avait une caméra là, une autre là-bas. Je pense qu'il y avait deux, trois caméras qui tournaient là. Et là, l'annonceur maison annonce le directeur du National une déclaration à faire. Fait que je m'en vais au milieu de la patinoire avec un micro comme ça. Puis là, j'annonce, en disant, le National de Québec va rester à Québec. Ça a parti. Et là, j'en parle, les frissons. J'étais au milieu de la glace, là. J'ai eu un frisson, là, de la tête aux pieds. C'était... faut connaître ça une fois dans sa vie, là. Tu sais, Elvis, c'est à toi soir. Céline Dion, encore à toi soir. Ah ouais. Mais là, Forgette, il y avait 10 000 personnes dans le Colisée. C'était... tu sais, Québec, ça a été extraordinaire. Les gens, moi, je me souviens, j'arrivais à Québec, je jouais au théâtre le soir. À Sainte-Agathe, je sautais dans ma voiture puis je m'emmenais à Québec. Des fois, je dormais dans le parking du Colisée ou un arrêt.
En attendant. Ouais.
Parce que je me battais contre le sommeil. Les gens, 5h30, ils étaient déjà en ligne pour rentrer au Colisée, pour assister. Bon, ils faisaient tirer quelques prix, mais un Harley Davidson, une Toyota Corolla, mais il y avait 10 000 personnes.
Pas si pire.
Mais tu sais, sur 10 000 personnes, il y en a deux qui gagnaient.
Oui, oui, oui.
Bon. Et je pense qu'ils fournissaient hot dogs. Je ne suis pas sûr, ou un ou deux hot dogs, quelque chose de même. Mais ça, c'est, il faut rendre justice à Marcel Aubu, qui, le Canadien... je me souviens qu'au début, ça devait se tourner au forum. Oui, ça devait être le forum dans le temps.
Oui.
Et il demandait un prix de fou, là. C'est comme 20 000 piastres par jour. Il n'y a pas un moyen. Bon. Et Marcel Aubu a dit, venez-vous-en. Il a dit, mais j'ai entendu parler d'argent. On était reçus au Colisée comme des rois. La ville de Québec nous a comme adoptés. Et vous auriez dû voir ça, quand on a tourné la scène où on gagnait la Coupe Stanley. C'est assez... ironique, les Nordiques étaient favoris pour se rendre jusqu'à la Coupe. Ils se font battre par les Whalers d'Hartford, si ma mémoire est
bonne. En première ronde.
En première ronde. Et nous autres, on la gagne. Fait que c'était marqué, je pense, au Journal de Québec, le National, la Coupe Stanley. Puis t'avais une photo de Pierre Lambert puis de Marc Messier, tu sais, qui... mais ça, on a tourné ça pendant une partie entre Canadiens et Boston. Les Nordiques et Boston. Et là, les gars de Boston, quand ils ont vu... nous autres, on avait le temps, c'est 10 minutes, 15 minutes pour tourner la Coupe. Fait qu'on avait répété, les gars savaient exactement quel jeu faire. Moi, je partais d'en haut, j'arrivais en bas sur la glace. Tout était chronométré. Mais les joueurs de Boston ne voulaient pas s'en aller. Ils voulaient regarder. Non, non, allez-vous-en. C'est pas vous autres. Mais Québec, ça a été Lucky Charm. J'ai dit la chance. Ah ouais. Puis là, on dirait que la ville a embarqué. Partout où on allait au restaurant, quand on couchait à l'hôtel à Québec, là, les gens nous en parlaient, puis c'était comme un phénomène. Ça a été agréable à vivre. Ça, c'est des belles rencontres. Des fois, on se croise. Je garde un souvenir de Marc Messier. On a tellement ri, là. Des fois, on était fatigué. Tout le monde travaille. Tu sais, vous imaginez, vous avez joué au théâtre, vous avez voyagé le soir, vous rentrez à Québec, vous faites maquiller à 5h30, 6h, puis à 4h moins quart, 4h30, il faut que je m'en aille, là. Je m'en vais à Sainte-Agathe, là. Tu sais, puis j'ai pas d'hélicoptère. J'avais une auto. Puis il y avait des polices. Fait qu'il fallait faire attention. Mais ça a été... c'est ça. La vie d'acteur, c'est ça. C'est le fun. Regardez, ça m'a pas tué. Je suis pas pire. Encore une bonne santé.
Ouais. Dans le livre, vous abordez votre combat avec l'alcool.
Oui.
Parce que pendant des années, il y a eu ça qui était très présent.
Oui.
Dans votre vie. Jusqu'à ce que vous croisiez trois acteurs.
Oui.
Sur un tournage qui sont pas mal faits.
Oui. Je me souviens, c'était la série Duplessis. Par délicatesse, je nommerai pas les noms, mais on a trois gars qui sont gelés, mais pas à peu près, là, tu sais. Fait que là, le réalisateur dit, reposez-vous bien, nous entrons en studio demain, soyez en forme. Puis ça, c'est une image, je me souviens. Ouais, ça a commencé à me trotter dans la tête, parce que t'as beau être jeune, t'as relevé vite, mais t'es frippé. Et après ça, j'ai été malade. Alors ça, moi, dans la vie, c'est jamais méchant, à un moment donné, d'avoir peur. Je me ramasse à l'hôpital, je perdais du sang comme si vous aviez ouvert la chambre par l'anus. Et je me ramasse à l'hôpital, et là, on me dit, c'est sérieux, vous avez des diverticulites, puis des... pas des tumeurs.
Des polypes.
Des polypes. Et je sais pas si c'est la même affaire, polype, tumeur, mais en tout cas, c'est bon. Et là, on m'enlève ça, et on envoie ça au laboratoire, puis là, j'attends pour savoir si c'est bénin ou malin. Et là, le médecin rentre dans ma chambre, c'est un Philippin qui parlait français, mais avec un accent, là. Fallait que t'écoutes, parce que des fois, ça sonnait. Et il dit, chanceux, vous. Oui, il dit, c'est bénin, mais attention, ça peut revenir. Et là, j'avais un petit peu décrit ma façon de manger. Tu sais, deux, trois bons trails martini avant, une bouteille de vin, puis cinq, six Irish coffee. T'sais. C'est de bonne humeur. Ça va bien. Et deux heures, on se couche, on se lève à 5h30, on va être là. Des fois, pour se partir le matin, petit shot de vodka dans le jus d'orange pour remettre, tu sais, avoir de la souplesse un peu, puis bon, une douche prolongée, se réveiller. Puis on arrivait, tu sais, et là, il me dit, aimeriez-vous ça dépasser 50, 55 ans? Je dis, oui, bien, il faut arrêter ça. Et là, il m'a fait rencontrer une diététiste, ou diététicienne, je ne sais pas.
Diététicienne.
Ouais. Diététicienne. Et là, à un moment donné, je l'écoutais parler, puis elle disait ça, 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 puis ça. J'ai dit, coudonc, il faudrait que j'arrête de boire, puis manger de la viande. Ben, savez-vous, ce ne sera pas une méchante idée. Et là, quand Marie est venue me chercher à l'hôpital, j'ai dit, bon, ben là, c'est fini, plus d'alcool, puis plus de viande. Je pense que ça a duré, j'ai été végétarien pendant 20-25 ans, là, j'ai pas, mais longtemps. Et l'alcool, ça a été un succès. La première année, je me sens fargé. Tout ça pour le jour de l'an. Il y avait ça de champagne, je jure, hein, dans un verre. Ça a duré 4 jours.
Et là, quand la ligne était mince, donc.
Ouais, là, ça prouve que quand t'es malade, t'es malade. Ça, c'est la première chose que tu fais, c'est « Ah, mon nom est Michel Forgette, je suis alcoolique. » Et là, j'ai dit « Il me ferait plus poigner. » Et à partir de ce moment-là, là, ça fait 40 ans.
Bravo.
Et je dois dire, ça, pour rendre justice à Marie, les deux meilleurs moves que j'ai posés, les gestes, c'était que de dire oui quand elle m'a demandé en mariage. Puis arrêter de boire.
Puis c'est arrivé quasiment en même temps, non?
À peu près, oui. C'est arrivé à peu près en même temps, puis... Ça a fait que... Bon, je suis rendu là.
Mais est-ce qu'il y a une fierté d'avoir réussi à passer à travers ça 40 ans plus tard?
Oui, 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 mais ça n'a pas été si dur que ça. Parce que j'ai vite vu le bon côté de la sobriété.
Et le mauvais côté, si on continuait, parce que là, c'était la santé qui allait à quelqu'un.
Que j'avais des exemples en dessous du nez de gars que le foie était après sauté.
Ouais.
Des gens à qui je pense, là, ils sont rendus peut-être jusqu'à 60, 65, mais en tremblant, puis en marchant pas vite, puis en n'étant plus capable de performer ou de faire du sport.
Il y a eu les implications auprès des sans-abri,
ouais,
qui ont été importantes pour vous. Ça part d'une rencontre avec l'abbé Pierre, mais
oui,
longtemps avant.
Longtemps avant. On a une photo, je pense que ma sœur a la photo. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Puis l'abbé Pierre est venu à Montréal. Et ma mère avait travaillé pour Jean Drapeau pendant ses élections. Alors, une invitation pour assister à ça à l'Hôtel de Ville. Et là, on a eu le droit, c'était comme aller voir le Père Noël, une ligne, là, puis je pense qu'il signait un volume, je ne me souviens plus. Et j'avais été, c'est comme... Puis là, je suis arrivé à la messe dans ce temps-là, là, moi, j'étais... Tu sais, la soutane, je portais ça tous les matins. Et puis, j'ai failli. J'ai passé par le séminaire de Chambly, c'était une autre affaire, ça. Et là, quand j'ai vu l'abbé Pierre, là, pour moi, c'était... Le plus près, tu pouvais être d'un saint homme.
Oh oui, bon.
C'est l'abbé Pierre. Bon, c'était comme... Chez nous, c'était religieux. Bénitier à l'entrée, bénitier à la sortie. Chez nous, là, ma maison actuelle, croyez-le ou non, j'ai un beau crucifix au-dessus de la porte d'entrée. Ma femme a dit, voyons, on ne va pas à la messe. Mais frère, c'est là que ça... Chez nous, il y en avait un de même. C'était un beau crucifix en ivoire. Là, quelque chose. Et il est là. Puis un jour... Je visitais un condo et on se préparait à le stripper, là, tout arraché, et je vois un Sacré-Cœur à terre. les statues du Sacré-Cœur, c'était à peu près haut de même, là, 2 pieds et demi, avec une espèce de manteau rouge, là, puis les bras ouverts. Là. J'ai dit, vous allez faire avec ça? Ben, ça s'en va dans les vignes. Ben, je vais-tu le prendre? Ben oui. Il est chez nous, en sécurité, dans ma petite salle, j'ai mon Sacré-Cœur. Je ne vais pas à messe, mais j'ai encore le Sacré-Cœur et le crucifix. Mais la religion, moi, je pense que c'est comme une brosse à dents. Ça nous regarde. Fais pas de tort à ton voisin. Aide un peu partout. Fais du bénévolat. C'est aussi bon que de... Hein? Bon. Puis je trouve qu'en français, c'est insignifiant. J'aime mieux ça en latin, c'est à vous. J'aime mieux Deo gracias que c'est merci beaucoup.
Il y a eu le réchaubus à travers tout ça, qui a été une belle création, qui venait en aide
qui
au
vit encore.
Qui existe toujours.
Ah oui, ben oui. Okay. Ce sont des bénévoles de la Commission de transport de Montréal qui l'ont récupéré et qui s'en servent. Il est encore tous les jours dans l'est de la ville, dans pratiquement, ça c'est le marché Chaumédé.
OK.
Et il donne une collation aux enfants. En fait, c'est plus qu'une collation, c'est un souper pour ceux qui en ont besoin. Et ça a été... Ça, c'est des façons de remettre. À un moment donné, tu te dis, hey, chanceux, je gagne bien ma vie, je suis heureux à la maison, ça va bien. Tu peux pas rester là à rien faire. Moi, et c'est à la suite d'un reportage à la télévision sur une dame qui allait porter de la soupe aux sans-abri. J'ai dit, hey, faut faire quelque chose. Et j'étais là, je pense, avec les œuvres du cardinal, l'œuvre du cardinal Léger, pendant une quinzaine d'années, je pense. On a organisé un tournoi de golf. J'ai marché avec les travailleurs de rue l'hiver, voir comment c'était, comment ça se passait. C'est tough. C'est tough, puis il y en a de plus en plus. Quand on va dans ce coin-là de la ville, là, les gens qui quittent, tu sais plus par quel bout commencer. Puis tu peux pas les ramasser, puis les installer. Tu sais, tu bâtirais une résidence avec 1500 chambres, tu les installes tous. Tu peux pas les ramasser puis leur imposer ça, c'est la liberté. Bon. Mais c'est un phénomène, c'est dur. C'est dur à voir, puis ça s'en va pas.
Est-ce que vous êtes déjà dit ça aurait pu être moi, vu que vous étiez délinquant plus jeune?
Bien, ça me disait, j'ai-tu bien fait? Ma mère a-tu bien fait de me faire envoyer à Boscoville? Ma mère a-tu bien... Les psychos... Puis là, tu repasses tout. En faisant le livre, regarde, lui... Ça a fait que j'ai fini par faire du monde. T'sais. Ma mère était contente. Elle m'a dit ça un jour. Elle a quand même vu que j'ai réussi ça quelque part. Ouais. À un moment donné, après des années de tac au tac, ça me disait « Ah, t'as fini par faire du monde. » Ben j'ai dit oui. C'est mieux que j'ai fait du monde en vieillissant que d'avoir fait patate en vieillissant. c'est plus réjouissant. Ça s'oublie plus vite, les 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand tu penses à 35, 40, 45. Ça a fait du monde. Ça a fait que... Bon, ben, c'est ça. Tu sais, me définir, c'est comme... Bon, ben... La Champlain, l'eau est buvable.
Il y a beaucoup de monde qui vous ont aidé au début de votre carrière. Ensuite, vous avez été producteur de théâtre. Il y a plein de jeunes acteurs qui ont joué Guy Jodoin, Luc Guérin, ouais. Michel Charette. Ouais, avez-vous l'impression d'avoir voulu faire ce que les autres ont fait pour vous?
Ah, ben c'est une façon, oui. Puis c'est... On dirait que... Un peu le pif, hein? Guy Jodoin, quand je l'ai engagé, là... J'ai aimé la face. Il avait les cheveux sur ses épaules. Là, il n'a plus. Ouais. Ou il est court. Et je ne sais pas, j'ai aimé la face. Je trouvais qu'il avait du talent. Vous savez que c'était un musicien, il joue du violon. Guy sait tout faire. J'ai dit, t'as tellement de talent, tu ne sais plus quoi faire avec. Et l'autre jour, je suis allé faire l'émission du matin à TVA.
Oui, salut, bonjour.
Salut, bonjour. Et je suis arrivé là. Tu sais, quand tu pars de Saint-Adèle, tu vas à Montréal, tu pars de bonne heure. Parce que tu ne sais jamais à quelle heure tu vas arriver. Je suis arrivé comme une grosse heure et quart et demie avant mon temps. Et je suis assis au maquillage et j'entends courir. Guy est parti de son studio où il préparait à faire le tricheur pour venir me dire bonjour. Mais j'ai dit, tu sais pas comment tu me fais plaisir. Parce qu'il aurait pu dire d'en haut, mon mec. Mais qu'il soit venu, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai dit, ah ben, t'es fin. T'es gentil de dire bonjour. Et puis, j'ai tellement ri. Moi, là, quand on partait en tournée, je conduisais, j'avais toujours une vanne, tu sais, et je conduisais moi-même, Et quand vous êtes dans une vanne de même, là, avec Guy Jodoin, Luc Guérin, c'est, ça va vite. C'était, il arrêtait jamais. Je riais, j'étais au volant, je riais. Je pense même qu'on a pogné un ticket en Abitibi, non, en Gaspésie. On s'est fait arrêter par la police. Le gars pensait qu'on riait de lui. On a passé, il y avait un char de police, puis là, on riait, tu sais. Là, le flasher, la cerise, tout. Là, oui, je sors ça, donne les enregistrements. On a-tu fait quelque chose? Il répond pas. Il revient, il me leur donne ça. Puis j'avais Adèle Reinhardt, une comédienne qui doit peser 90 livres mouillées. Madame, montrez-moi donc votre ceinture. Elle n'était pas attachée. On a une étiquette parce qu'Adèle n'était pas attachée. Je l'ai payé. Je lui ai dit, Adèle, oublie ça, moi, le payer. Mais quand on est arrêté au restaurant un petit peu plus loin pour manger, il y avait des policiers. Je suis allé voir avec le ticket. Ah, ils disaient, poigné notre zélé. On a dit.
À la fin des années de production de théâtre, ouais, vous avez dit à Marie que vous lui aviez promis une retraite.
Oui.
C'était clair que ça allait arriver, oui, à un moment donné, que, oui, vous alliez arrêter, oui, en partie ce métier.
Tu sais, on souffre. Tu sais, la sécurité, tu veux pas vieillir, puis t'es obligé d'appeler. Bon. Marie disait, tu travailles trop, tu fais trop, tu dors pas assez. Je disais, laisse-moi assurer notre retraite. Après ça, c'est toi. Je dis, si t'as le travail, Marie, là, j'ai dit, ça va être Marie, puis le travail va flyer. Puis en 2010, j'ai dit, c'est fini. Sur invitation, Papy Léo, bon.
Ouais.
Petit bout de film, là, mais plus d'affaires. Là, de...
On court plus après.
Non. Puis je regarde les autres, c'est agréable. Je m'assois, je regarde District 31, je trouve bien ça le fun.
Mais il y a beaucoup d'acteurs qui disent on peut pas prendre une retraite de ce métier-là, donc on peut, c'est ce que vous me dites.
On peut. Des fois, tu as un appel. Mais là, il y a une petite affaire dans l'air là, que je peux pas révéler, mais c'est un téléphone. Ça te tenterait-tu l'été prochain de peut-être... Ouais, ça dépend qui. C'est sûr que Luc Dionne, qui est un ami dans la vie, c'est pas pareil. C'est pas... S'il écrit quelque chose dans lequel il me voit, c'est parce que ça va être écrit pour moi, puis ça va... L'âge va être là, puis tout ça. Mais non, j'aime bien ça, regarder les autres. Je trouve ça le fun. Parce que je sais comment ça se passe, je sais le stress. Tu sais, quand vous... Autrefois, là, quand on faisait du tac au tac, on répétait 4 heures le lundi, 4 heures le mardi, 4 heures le mercredi, puis on rentrait en studio le jeudi. Là, vous recevez le texte maintenant, là, une semaine, deux semaines avant, vous l'apprenez chez vous, vous arrivez en studio, ils font ce qu'on appelle un blocking, une mise en scène, et on tourne. Fait que si tu ne sais pas par cœur et de reculons, puis que tu es troublé par le texte, t'es pas là, là. Et tu penses juste au texte, tu joues plus, tu fais juste... Qu'est-ce que je dis après? Bon. Alors, quand je regarde District 31, j'ai joué dans District 31, puis j'ai fait Virginie avant. Alors, faut que tu sois lousse. Lousse, et puis tu fais confiance à l'autre. Travailler là, comme District 31, comme ils font, là, faut se fier à l'autre, se fier à l'équipe, se fier à tout le monde autour. Faut que tout le monde pousse vers... Parce que il n'y a plus de répétition. Tu sais, au théâtre, on répète 6 semaines. T'as le temps d'apprendre le texte, de te placer, bon, prendre tes aises, laisser arriver le personnage. Mais quand t'arrives dans des... Et les pires, c'est ceux qui arrivent. Quand tu fais une série, puis t'es là trois semaines, ou tous les jours, t'es chez vous. Mais là, il arrive quelqu'un qui vient jouer un rôle. La première journée, là, il se fait du sang, hein, du mauvais sang. Parce que lui, il arrive dans une famille, c'est l'étranger, puis il faut qu'il suive le rythme, puis il faut qu'il... Alors, c'est très exigeant, mais c'est bon. Ça marche.
Dans les derniers rôles, il y a eu feu.
Enfin, ça, c'était...
C'était comment jouer ce rôle-là, qui était ben, très touchant, d'ailleurs, comme
Louis personnage. Louis Turcot a dit, « Enfin, un rôle pour toi, tu parles pas. » Elle a dit, « Ça a été écrit pour toi.
» Mais tout se passait par lui, quand même. Ben, il y avait une partie de l'histoire qui passait, oui, par lui.
Puis ça, Maude Guérin, là, quelle actrice. Moi, là, cette femme-là, je regardais 5e rang parce qu'elle était dedans. Hein? C'est une actrice, puis c'est une personne dans la vie gentille, est aussi gentille qu'elle est talentueuse. C'est, je la connais pas dans la vie privée, mais sur un plateau, vous voyez comment sont les gens. Et Maude Guérin, quand il l'annonce dans quelque chose, je regarde. parce que c'est une grande actrice. Moi, j'ai des actrices sur lesquelles j'ai des fixes. Angèle Coutu. Oui. Angèle, c'est une grande actrice. Je l'ai connue au conservatoire. C'est Michel Deslauriers. Michel Deslauriers, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Michel Deslauriers, là, c'était aussi tête à deux sur scène que Tigus et Tubus. On était là, on pouvait improviser. Des fois, elle partait sur quelque chose, puis là, je suivais. Je disais, ah, elle s'en va là, là. Puis, oups, puis, tu sais, c'est à ton tour de tenir l'assiette, puis, oups, ça tombait. Bah, c'est très agréable de travailler avec des gens talentueux comme ça.
Et là, la retraite, c'est quoi? C'est le golf?
Ouais, bien, j'aimerais ça travailler le bois. Être capable de peindre. Je suis zéro. Je sors les poubelles très bien. Ça, je fais bien.
C'est un talent.
Ramasser les feuilles, je fais un travail admirable. Jouer le blower, pousser les feuilles dans le bois. ce genre de... Mais quand ça arrive dans, tu sais, l'ébénisterie, bien finir. Non, Alors, je joue au golf, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Ça, c'est jusqu'à temps que... Quand t'arrives à mon âge, des fois, whoop! Oh, je pense que je vais relire cette page-là, j'ai à passer
vite. Un bout, toi.
Pas un échappé un bout.
Monsieur Forget, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir.
Ben moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci. Et je suis connecté avec Sorel, CJSO, depuis que je suis petit gars.
Invitez les gens à se procurer votre livre, Délinquant un jour, artiste toujours. Merci encore une fois d'avoir été là aujourd'hui.
Merci.